J'invite maintenant le dernier intervenant de cette séance, Vincent Négri, qui est docteur en droit public, chercheur au CNRS, affilié à l'Institut des sciences sociales du politique de l'École normale supérieure de Cachan et professeur associé à l'Université internationale Léopold Sédar Senghor à Alexandrie, ainsi qu'à l'Université de Sharjah aux Émirats arabes unis, membre fondateur de la Société internationale pour la recherche sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l'art, ainsi que membre du comité éditorial de l'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels de l'ICOM et expert consultant auprès de l'UNESCO.
Merci. C'est le problème des CV qui circulent sur Internet. Voilà. Oui, exactement. Bon, merci à Yann et à Bénédicte de m'avoir convié à ce colloque et de pouvoir vous présenter une réflexion sur l'objet revendiqué, l'objet en justice. Alors, revendiqué, on a beaucoup parlé de restitution jusqu'à maintenant. Donc, on va essayer d'inverser le regard, je dirais que de se positionner de la part de celui qui réclame, donc l'objet qui est revendiqué, et donc l'objet, effectivement, qui réclame justice, en quelque sorte. Et je vais construire mon propos à partir d'un seul objet, à partir d'une œuvre d'art, une œuvre d'art qui était l'objet de transfert, de revendication, de transfert à nouveau, de translocation, bien évidemment, si je reprends le vocabulaire de Bénédicte, une œuvre d'art comme un symptôme du droit de l'objet à disposer ou à ne pas disposer lui-même, ou à être l'objet dont on dispose au gré de circonstances ou d'intentions politiques. Et je veux... Pour vous illustrer cet objet, je vais prendre deux images, et en fait, ce sera deux cartes postales de cet objet. Alors, en posant la question du dialogue entre ces deux représentations de la Vénus de Cirène, l'une à gauche n'est que l'image d'un moulage qui a été réalisé en 1914 et exposé au musée de Benghazi en Libye. L'autre à droite, c'est le cliché de l'original, découverte le 28 décembre 1913 dans les grands thermes de Cirène et soustraite à son territoire d'origine en 1914 et conservée au Musée national à Rome jusqu'en 2008. Et donc, je reviendrai sur ces deux dates, 1913-2008, et puis on verra que dans cet intervalle entre 13 et 18 s'intercale une autre date, 1989, qui est l'année où la Libye va formuler une revendication pour le retour de la Vénus de Cirène en Libye. Et puis, il y a peut-être aussi un amont. L'amont, c'est un contexte de guerre, c'est la guerre italo-turque qui oppose l'Empire ottoman et le Royaume d'Italie entre 1911 et 1912, et une loi du 25 février 1912 qui soumet la Tripolitaine et la Cyrénaïque, d'où provient cette statue, donc qui soumet ces deux territoires à la souveraineté du Royaume d'Italie en 1912. Et donc, guerre, conflit, et donc dans ce conflit, un personnage est envoyé pour pacifier la Libye, c'est Rodolfo Graziani, et donc en 1921, il s'était déjà illustré, quelques années avant, dans la réponse ou dans la chasse aux grévistes, hein, suite aux mouvements sociaux et notamment au conseil d'usine d'Antonio Gramsci, et donc Rodolfo Graziani sera surnommé en Libye le boucher de Fezza. Donc c'est celui qui va ouvrir des camps de concentration en Cyrénaïque et où seront déportés de nombreux Libyens. Et donc la pacification, et c'est un moment important, je mets des guillemets à pacification, s'achèvera avec la pendaison d'Omar al-Mokhtar, chef de la rébellion libyenne, en 1931. Et c'est cette histoire partagée, histoire douloureuse, on peut l'imaginer pour la Libye, qui va être au cœur de la revendication de l'avenue de Cirène. Et donc avec, on va le voir, une vraie mise en scène de la restitution. Alors, cette mise en scène, vous la voyez d'abord sur cette image. Alors, cette image est importante, elle n'est pas seulement qu'anecdotique, puisque j'attire votre attention sur un élément dans cette... C'est la photo que porte le colonel Kadhafi sur sa vareuse. Et vous voyez, donc, sur cette photo, en fait, c'est ni plus ni moins que l'arrestation en 1931, donc, de Omar al-Mokhtar, donc, qui sera pendu quelques jours après. Et donc, vous avez là donc, l'expression politique, fantasque d'une revendication, une forme de scénographie de la revendication. Et bien évidemment, la présence et l'exposition du moulage à Benghazi ne cessent de rappeler la violence de la colonisation et des crimes qui ont été perpétrés. Et donc, on peut imaginer que dans ce contexte-là, on est dans un contexte plutôt moral ou éthique, certes, mais que le retour de l'original et symboliquement donc la substitution de l'original à son moulage relève d'une réparation de l'illicite. Et quand je parle de l'illicite, je qualifie ainsi des crimes de guerre et non pas la colonisation, puisque pour les juristes, il y a deux registres totalement distincts. Donc, vous avez effectivement donc, cette image iconique hein, que vous pouvez revoir reproduire dans de nombreux ouvrages. Mais revenons effectivement sur Le Lion du désert, un film avec Anthony Quinn, où Anthony Quinn donc, était Omar al-Mokhtar. Et donc, si vous voyez cette image, eh bien, dans le film, vous avez effectivement, donc, vous voyez, la scénographie du film reprend bien évidemment cette image-là également. Mais revenons sur ces deux images, donc ces deux cartes postales. Et donc, qu'est-ce que ce dialogue entre ces deux cartes postales nous dit de la relation de cet objet au droit ? Le droit conçu comme une gangue ou comme l'arme d'une émancipation et donc d'une forme d'autodétermination, pour prolonger le titre du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Au regard du contexte, c'est guerre coloniale, saisie d'un bien culturel, quelle idée de justice exprime cette revendication ? Au-delà de sa mise en scène, cette revendication met en question, met en tension le concept même de justice. Et ce concept de justice est un levain du fonctionnement de la société internationale. On en a des prémices. Émer de Vattel, en 1758, publie un ouvrage sur ce qu'on appellerait aujourd'hui du droit international, qu'on appelait à l'époque le droit des gens, et vous voyez ce qu'il indique dans le paragraphe 63 et qui est prolongé par un paragraphe 64 qui concerne l'obligation de toutes les nations de cultiver et d'observer la justice. Et Émer de Vattel écrit ceci, toutes les nations sont donc étroitement obligées à cultiver la justice entre elles, à l'observer scrupuleusement, à s'abstenir avec soin de tout ce qui peut y donner atteinte. Chacun doit rendre aux autres ce qui leur appartient, respecter leurs droits et leur en laisser la paisible jouissance. Nous sommes en 1758. Dans une exception classique, le concept de justice constitue donc l'idée régulatrice dont la mise en pratique révèle des conflits, des procédures codifiées, une confrontation réglée d'arguments et le prononcé d'une sentence ou d'une solution instaurant ou rétablissant un équilibre, et je reviendrai sur cette notion d'équilibre. Comme l'a souligné Paul Ricoeur, l'idée de justice peut être tenue pour le moment réflexif de cette pratique. Pratique complexe dans une dualité. Dualité parce qu'il y a d'une part une pratique sociale dans le jeu des relations entre des individus ou entre l'individu et l'État, mais pratique internationale également dans le jeu des relations entre les États, pratique qui, en se codifiant, donnera naissance à la coutume internationale. Et nous verrons qu'en l'espèce, c'est sur le fondement de ce que le Conseil d'État italien a identifié comme étant une coutume internationale que sera autorisée la restitution de la Vénus de Cyrène. Équilibre, vous disais-je, cet équilibre n'est pas une donnée nouvelle. On le prouve déjà, cette idée d'équilibre qui dessine l'idée de justice chez les philosophes grecs. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote définit la justice par l'équilibre fragile entre un excès et un défaut, entre une présence et une absence, comme un terme moyen entre deux extrêmes, une médiété. Bien évidemment, s'il y a cet équilibre, il y a aussi la rupture de l'équilibre. Et c'est bien ce dont il est question dans ces deux cartes postales. L'équilibre rompu entre le moulage et l'original, entre une statue parée des vertus de l'authenticité que vient conforter, entériner son exposition au Musée national à Rome, et le moulage dont la présence ne cesse d'exprimer la perte, le manque, l'éloignement justement de cet original. Ce qu'expriment ces deux photos, c'est un déséquilibre, c'est une asymétrie, c'est l'asymétrie du rapport colonial. Dans l'idée de justice se joue aussi la question des partages inégaux. Et c'est la pierre d'achoppement, justement, que met en évidence Aristote dans sa conception de la justice, ou autrement nommée, au Moyen-Âge, l'égalité proportionnelle. Et la société, et notamment la société internationale, se révèle être un corps construit et déconstruit par le consensus et par le conflit. Sur un versant, toute captation ou appropriation peut être contestée, avec une intensité d'autant plus forte que la répartition des parts sera inégale. D'un autre côté, la stabilité ou la fiction de l'égalité, et nous savons que la communauté internationale repose sur ce type de fiction égalitaire, la fiction d'égalité est fondée sur le consensus concernant les modalités de construction du consensus ou les procédures d'arbitrage entre revendications rivales ou concurrentes. Et la revendication de la Venus de Cyrène est une rupture du consensus. Elle tend à écrire un autre équilibre, un déplacement du curseur dans la médiété qu'évoquait Aristote. Et c'est surtout l'écriture d'une autre page de justice, puisqu'il va y avoir des négociations, donc à la suite de la revendication exprimée en 1989, négociations qui vont se conclure par une déclaration commune adoptée en 1998, une déclaration commune qui va, entre l'Italie et la Libye, donc aborder les rapports nouveaux entre les États, en prévoyant un volet de coopération, le couplet classique de ces accords, mais surtout, dans le dispositif de cette déclaration, l'Italie s'engage à retourner tout manuscrit, document et objet archéologique déplacé en Italie pendant l'occupation de la Libye. La convention de l'UNESCO est même citée à l'appui alors qu'elle n'est pas applicable au regard de l'ancienneté des faits commis, je vous rappelle, en 1913 et 1914. Et donc, il va y avoir une volonté de restitution qui va se heurter à une opposition en Italie. L'affaire sera tranchée par le tribunal administratif régional du Latium en 2007, confirmée par le Conseil d'État italien dans une décision du 8 avril 2008. Et le Conseil d'État va reprendre l'argument du tribunal administratif, qu'il va donc confirmer en disant qu'il y a bien une obligation de restituer des biens culturels dès lors qu'ils ont été pris lors d'une domination coloniale en violation de l'interdiction de porter atteinte aux biens culturels en temps de guerre. Il est fait référence aux conventions de la Haye de 1899 et de 1907 qui interdisent le pillage et la saisie, et notamment la saisie des biens culturels. Et, nous dit également le Conseil d'État italien, il y a effectivement une obligation qui découle du principe d'autodétermination des peuples, c'est la résolution 1514 du 14 décembre 1960 des Nations Unies sur la déclaration de l'octroi de l'indépendance aux pays, aux peuples coloniaux. Et donc, à partir de ces deux textes, le Conseil d'État italien va tenter de dessiner ce qui, pour lui, constitue une coutume internationale. Et donc, c'est pour cette raison que la Venus de Cyrène a été restituée à la Libye en 2008. C'est un collector. Alors, au-delà de cette histoire, et donc, vous voyez, de la manière dont l'idée de justice, finalement, a peut-être, ou alimente même directement, me semble-t-il, la question de la revendication et du retour de Cyrène, au-delà, pour conclure, je poserai une autre question, qui est la capacité de l'objet à générer son propre système de justiciabilité. Et Yann Potin, ce matin, a abordé la question de la personnalité juridique d'un fleuve, donc en Nouvelle-Zélande, donc qui a été, vous avez effectivement plusieurs États, notamment en Inde ou Honduras, hein, où il y a six États dans le monde qui sont aventurés sur ce terrain-là. Et donc, c'est un système qui est fondé sur des valeurs, sur des symboles qui sont reconnus et assignés à un objet, à un élément, pour conférer, octroyer à l'objet, dans ce cas-là, dans le cas qui nous occupe, une personnalité juridique distincte, supranationale. Et donc, en Nouvelle-Zélande, vous avez une loi qui est le Te Awa Tupua Act de 2017, qui n'englobe pas que la rivière. C'est-à-dire, bien évidemment, quand vous prenez la presse, on vous voyez Vous voyez fleurir partout le titre, la manchette, un fleuve doté d'une personnalité juridique. En fait, quand vous lisez la loi néo-zélandaise et quand vous lisez les autres lois qui ont consacré ce de tel principe, ce n'est pas le fleuve, c'est le territoire dans lequel le fleuve, dont le fleuve est une matrice. Et donc, qu'est-ce qui définit la personnalité juridique du fleuve et donc du territoire dont il est la matrice ? Ce sont les valeurs spirituelles, culturelles et bien évidemment physiques, on parle d'un territoire, de l'entité. Et vous voyez bien qu'il y a peut-être effectivement une réflexion à conduire sur la manière dont finalement, en s'adossant à des valeurs, en s'adossant effectivement à ce que Benoît L'Étoile disait ce matin, je veux dire que sur le réseau, on va dire, de valeurs partagées, donc de réfléchir sur comment des objets peuvent-ils être dotés d'une personnalité juridique distincte de leur propriétaire, et en l'occurrence, sur le Te Awap Tupua Act, c'est simplement un trust qui est chargé de représenter les droits de ce territoire dont la matrice est le fleuve et dont les valeurs sociales et culturelles constituent le fondement. Voilà ces quelques éléments. Je vous remercie de votre attention.
En tant que modérateur, je vais simplement faire trois petites remarques. D'abord, qu'il y a plusieurs notion de politique dont on a parlé ici. Il y a les politiques du patrimoine, il y a le discours politique, il y a le contexte politique, et je rappellerai par exemple que le British Museum dans la salle des marbres d'Elgin insiste bien sur le fait que Greece was then under Ottoman rule. Donc c'est dit, la Grèce n'était pas un État indépendant mais une colonie ou une possession ottomane, ce qui d'un coup met une certaine distance entre les revendications du gouvernement grec aujourd'hui et l'acquisition de ces monuments. Il y a bien sûr la question juridique dans un contexte du XIXe siècle. Je rappellerai, dans le contexte de ce fameux panneau de Selim II, que le problème que la Turquie ne veut pas aborder, c'est que sa loi des antiquités en 1884 ne comprenait pas les objets islamique, ce n'était que... Et là, vous avez une dimension politique, idéologique encore plus forte, c'est celle de l'imposition à l'Empire ottoman qui veut se moderniser, de cette notion que les véritables antiquités, ce ne sont pas les objets de leur propre patrimoine, entre guillemets, mais les vraies antiquités, celles qui sont reconnues comme telles par le discours patrimonial occidental. Et troisième commentaire, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons dit, mais qui a été un peu provoqué, et c'est quelque chose qui m'obsède depuis quelque temps, qui a été provoqué par la vision de ces deux cartes postales, le vrai et la copie. Je suis partisan d'une discussion de ce qu'on appelle le régime de l'authentique. Je commence à en avoir un peu assez de ce fétichisme de l'objet unique et authentique, puisque la plupart des cas étudiés sont fondés sur des objets qui sont iconiques du fait de leur unicité. Or, nous avons aujourd'hui la technologie qui permet de faire des copies conformes d'une qualité exceptionnelle. Il suffit ensuite de les mélanger comme un jeu de cartes et voir qui reçoit quoi. Mais plus sérieusement, quand on sait que la plupart des objets, justement, eux-mêmes sont des copies d'originaux aujourd'hui disparus, je pense qu'il y a une certaine ironie à cette obsession de l'unique. Mais enfin, je sais que c'est un peu un thème anathème dans ce contexte. Je l'ai lancé comme ça à tout hasard.